Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant réalisé en collaboration avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé est préparé et animé par la pasteure Iris Reuter de la paroisse de la Fraternité à Nîmes. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
En mai, fais ce qui te plaît. Aujourd'hui, il vous a plu d'allumer votre radio pour ce temps de culte. Bienvenue donc à vous, chères auditrices, chers auditeurs de Radio Alliance. Bienvenue pour ce temps de culte. Laissons-nous traverser par le souffle du Dieu vivant, qu'il nous donne un élan de liberté, qu'il attise notre amour de la vie, et qu'il nous fasse ressentir la grâce de l'infini. Oui, la grâce et la paix de Dieu nous sont données. Amen. Je vous invite à la prière. Béni sois-tu, Dieu unique qui crée la vie. Béni sois-tu pour la nuit et sa lumière, les étoiles dans le ciel nocturne et pour l'éclat de la lune. Béni sois-tu pour la terre et le déploiement de ses couleurs au plus profond des océans. La création est parsemée des éclats de ta lumière qui fait miroiter les feuillages au lever du jour et quand les pluies arrosent et nettoient la terre. Béni sois-tu pour l'étincelle que manifeste l'humain désireux d'aimer et de donner la vie. Béni sois-tu de m'avoir éveillé à la vie. Au cœur des ténèbres du monde, accorde-nous de rechercher passionnément ta lumière et de la guetter avec espérance. Tu étais, tu es, tu seras. Tu nous entoures et nous animes, nous qui sommes des mailles dans le tissage de la vie qui nous précède et nous dépasse. Béni sois-tu qui nous donne ta bénédiction. Amen. Et dans le prolongement de cette louange, je vous invite à écouter le début du psaume de la création tel qu'il le chante Patrick Richard.
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent.
Louer Dieu nous incite à lever nos yeux vers cet horizon qui nous dépasse. Qui dépasse a inscrit notre vie dans plus grand que nous. Alors, confions à Dieu aussi ces jours où nous manquons d'horizon et d'amour pour la vie. Prions. Au jour de désert intérieur, lorsque les mots sonnent creux et que tout manque de relief, quand notre cœur nous accuse et nous condamne, renouvelle en nous ton souffle. Au jour de lassitude, où nous sommes épuisés, par ce que nous vivons et plus encore, par ce que nous ne vivons pas, renouvelle en nous ton souffle. Au jour de solitude, lorsque le chemin vers les autres semble interminable ou barré, entoure-nous de ta tendresse. Au jour de maladie, lorsque notre corps se dérobe et que nous nous demandons pourquoi, et au jour de désespérance, lorsque, doutant de toi et de nous-mêmes, quand la peur et l'angoisse de l'inconnu nous tiraillent, restaure en nous la confiance. Quand les ténèbres se font plus fortes que la lumière, sois notre boussole pour nous ramener vers ta parole vive. Amen. Et je vous invite à écouter et peut-être à chanter aussi le cantique « Oh, prends mon âme ».
Oh, prends mon âme.
Recevant sur nos vies la promesse de Jésus-Christ qui dit « Je suis venu afin que tous aient la vie et qu'il ait en abondance. » Et ailleurs, dans la Bible, nous allons l'écouter, il est écrit aussi « Quand notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, car il connaît toutes choses. » Cette promesse est pour nous. Face aux accusations et aux lassitudes de notre cœur, Dieu ouvre grand les bras pour nous ressourcer et nous renvoyer sur un chemin de liberté. Qu'il nous donne d'accueillir son amour. Oui, il est temps de respirer plus large, au rythme de son souffle. Amen. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Écoutez ou chantez avec la voix d'Éric Galia.
Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais privé de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné.
Non,
rien ne pourra jamais privé de la liberté.
Il vous est certainement déjà arrivé de rencontrer des gens qui rejettent toute religion, tout simplement parce qu'ils considèrent que les gens qui se réclament d'une religion n'en sont pas de bons ambassadeurs. La religion, disent-ils, il n'y a qu'à voir ceux qui vont à la messe ou au culte d'ailleurs, et qui sont pires que les autres dans la vie. Ce que ces personnes reprochent aux fidèles, c'est un manque de cohérence entre la foi et les actes. Ah, la cohérence entre ce que nous croyons et ce que nous vivons, c'est un sujet vieux comme l'humanité. Il y a longtemps, très longtemps même, un auteur qui se nomme Jean, et dont on ne sait guère plus, a écrit une lettre à des chrétiens et des chrétiennes. Le souci que la foi et la vie soient en cohérence parcourt sa lettre comme un fil rouge. Écoutez ce qu'il dit aux chrétiens et chrétiennes de son temps, par la voix de Christian Delors, qui est familier aux auditeurs et auditrices de Radio Alliance.
Nous lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 3, les versets 18 à 24. Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Par là, nous saurons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous rendrons la paix à notre cœur. En effet, si notre cœur nous accuse, nous le savons, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Et si, très chers amis, notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. ce que nous lui demandons, nous le recevons de lui, parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Voici ce qu'il nous commande, c'est que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme le Christ nous l'a ordonné. Celui qui obéit au commandement de Dieu demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.
Alors l'auteur de l'épître de Jean développe donc dans sa lettre que la foi qui est déconnectée d'une pratique de vie est vaine et vide. Il rappelle que le monde est un champ de travail pour toute personne qui prétend aimer Dieu. Bon, jusque-là, rien de nouveau, j'ai envie de dire. Je pense que nous sommes tous et toutes à peu près d'accord d'exiger la cohérence entre la vie et la foi. Mais quand j'ai médité ce petit extrait de l'épître de Jean, qui d'ailleurs est écrit au chapitre 3, les versets 18 à 24, il y a un verset, le verset 20, qui m'a particulièrement interpellée. Il dit « Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, car il connaît tout. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Ce verset parle donc de deux juges bien différents l'un de l'autre. D'un côté, il y a notre cœur, ou on pourrait aussi dire notre conscience, sachant que le cœur, dans la pensée biblique, est ce qu'on appelle aujourd'hui la conscience. Et de l'autre côté, il y a Dieu. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, car il connaît tout. Alors, qui ne connaît pas ce cœur qui accuse et qui nous fait éprouver la culpabilité? La culpabilité, c'est une expérience assez complexe. D'un côté, il y a une culpabilité qu'on peut qualifier comme saine. Elle surgit quand on ressent un décalage entre les exigences d'un côté et notre comportement réel de l'autre, donc un manque de cohérence. Elle est donc l'expérience que j'ai fait quand j'agis contre mes valeurs et suppose que j'avais le choix de le faire ou non. Alors cette culpabilité, elle peut nous amener au regret ou, dans le langage religieux, à la repentance. Alors il m'appartient d'assumer la responsabilité de mes actes et de réparer, si possible, le mal que j'ai fait. Mais souvent, la culpabilité relève de sentiments qui sont plus diffus, qui sont irrationnels. Et puis là, elle ne se réfère pas à un acte concret, elle est plutôt de l'ordre d'un malaise général. Elle peut surgir à de multiples situations dans notre vie. Par exemple, je pense au décès d'un proche où on se dit « Ah, j'aurais dû lui dire, j'aurais dû faire ceci ou cela. » Ou bien, cette culpabilité peut surgir si on est atteint d'une maladie et qu'on cherche le coupable, que ça soit soi-même et sa manière de vivre, que ce soit l'environnement, etc., etc. Ou pire encore, un enfant ou un adulte victime d'un abus sexuel va en éprouver de la honte, voire s'en sentir coupable, alors qu'il n'y est pour rien. Dans ces cas, il peut se développer un malaise plus général qui affecte l'estime de soi. On se sent minable, fautif, sans vraiment savoir dire pourquoi. Mais dans les deux cas, dans les cas de la culpabilité saine, mais aussi celle qui est beaucoup plus diffuse, irrationnelle, inexplicable, elle vient d'un jugement qu'on fait sur soi. Le texte biblique dit « c'est notre cœur, c'est-à-dire notre conscience, qui nous accuse ». Cette conscience, elle peut juger, elle peut condamner même, mais la conscience est aussi dans la pensée biblique l'endroit où on peut écouter Dieu. Les conséquences de ce jugement sur soi peuvent donc, d'un côté, nous rendre responsables et faire que nous assumons la responsabilité de nos actes. Mais de l'autre côté, elle peut aussi nous emprisonner ou paralyser. Alors, revenons un instant seulement à la religion, puisqu'on a souvent reproché aux religions de culpabiliser les croyants, de contribuer donc à ce sentiment de culpabilité. Sans doute effectivement parce que l'humain ne vit jamais totalement en cohérence avec la volonté des dieux. L'humain est faillible, il est pécheur, si on veut le dire avec un langage religieux. Alors là où on réduit la religion à une morale, on doit forcément se sentir désespérément coupable. C'était par exemple le cas de Martin Luther avant sa conversion de vie, à cette époque donc où il cherchait désespérément à mériter l'amour de Dieu par un comportement impeccable. Il cherchait donc à être juste devant Dieu. Mais le texte nous décrit une démarche tout autre. Il dit, je vous le répète, « Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, car il connaît tout. » Face aux accusations de notre cœur, l'auteur nous renvoie donc à Dieu qui est plus grand, qui connaît tout, qui connaît les fautes réellement commises ou imaginaires, mais qui connaît aussi notre sentiment d'échec et les malaises qui va avec, qui connaît notre jugement sur nous, qui est d'ailleurs souvent loin d'être clément ou tendre. Face à tout cela, Dieu est plus grand. Quelle liberté, quelle libération respire de cette toute petite phrase. Face à notre auto-accusation, Dieu ouvre grand les bras et nous redit son amour, donc son estime de nous, même si notre estime de nous est esquintée. Il nous accepte tels que nous sommes, avec nos failles. Il nous accepte pécheurs. Ce qui est décrit là, c'est loin d'une démarche culpabilisante. Au contraire, il y a là quelque chose de rassurant, de libérateur. Oui, je pense que le jugement de Dieu libère. Il libère du poids qui pèse sur nous lorsque notre cœur nous accuse. La foi en Dieu libère fait que même coupable, même défaillant, on peut avoir devant lui de l'assurance. C'est ce que dit le texte. Si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Ce mot assurance peut être traduit aussi avec sincérité, franchise, où nous pouvons venir à lui sans peur ou retenue. Lorsqu'on croule sous la culpabilité, il nous appelle à se confier à lui, à son jugement qui libère. Il ne nous écrase pas, il nous redresse. Ce qui est décrit dans ce texte est une conviction fondamentale des protestants. L'évangile passe avant la loi. C'est-à-dire que Dieu nous dit d'abord, viens tel que tu es. Vient l'enfant que j'aime. C'est seulement dans un deuxième pas qu'il nous envoie à mettre cet amour reçu en pratique dans la vie. On peut dire que l'indicatif « tu es aimé » vient avant l'impératif « aime à ton tour ». C'était ça la découverte de Luther. Nous ne sommes pas aimés pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes, et cela sans condition aucune. Pour Luther, cette découverte l'a libéré de sa culpabilité et l'a motivé ensuite à déployer toute son énergie de vie pour annoncer l'Évangile. Sa découverte est toujours d'actualité aujourd'hui, où certaines manières de vivre et d'enseigner la religion sont encore culpabilisantes. Quel poids ça peut créer, quelle souffrance aussi, quel gâchis de l'Évangile qui nous annonce pourtant l'amour inconditionnel pour demeurer en Dieu et Dieu en nous. Effectivement, ce n'est pas la pression, ce n'est pas l'exigence et la revendication qui porteront du fruit. Au contraire, ils mènent forcément à la culpabilité. Ce qui fait agir et garder les commandements, ce sont l'assurance devant Dieu, l'assurance d'être accepté inconditionnellement. Ça, c'est vrai pour Dieu, mais je pense que c'est aussi vrai pour les relations humaines et aussi pour tout engagement. On peut toujours culpabiliser de ne pas être là comme on le voudrait, de ne pas s'engager comme on le voudrait, de ne pas être disponible assez, de ne pas être assez ceci ou cela. Ça crée la pression et surtout aussi, à un moment, ça crée le risque de se retirer. Si par contre on peut s'engager, agir librement, en sachant que l'autre m'accepte avec ce que je peux donner, tel que je suis, un élan bienfaisant va se libérer. Dans nos relations humaines, tout comme dans notre relation à Dieu, la culpabilité risque finalement de rompre la relation, de faire qu'on se détourne de la religion, qu'on se détourne de Dieu, qu'on se détourne aussi d'un engagement. Par contre, l'assurance d'être aimé et accepté nous renforce dans nos liens et mène finalement à l'amour mis en pratique dans la vie. Ce n'est pas facile de vivre ainsi, libre, libéré et désireux de donner au final. Nous avons besoin d'innombrables fois dans la vie de nous en rappeler et aussi que les autres nous le rappellent. Ainsi, j'aimerais terminer par une prière qui loue l'Esprit de Dieu, celui qui est, selon notre texte, la force divine qui nous rappelle cet amour de Dieu. Mais avant de vous la proposer pour la prière, je vous invite à un tout petit moment de méditation en musique. Esprit de Dieu, tu es comme l'eau vive qui irrigue et imbibe secrètement chaque vie. Esprit de Dieu, tu es comme le vent qui court sans qu'on sache ni d'où il vient, ni où il va, faisant bouger feuilles et branches, pénétrant la demeure de la chaleur du sud ou des fraîcheurs du nord. Esprit de Dieu, tu imbibes notre cœur pour le rendre libre. Tu le réchauffes pour lui permettre d'aimer. Tu ouvres notre intelligence pour qu'elle devienne accueillante. Et tu dilates notre être de la profonde joie d'exister. Esprit de Dieu, tu nous fais naître, respirer, prier, aimer, comprendre, espérer. Et sans la moindre violence, tu mets en nous un esprit nouveau. Se recevoir d'un autre qui nous aime, quel cadeau merveilleux dont nous te rendons grâce. Amen. D'ailleurs, dans l'Épître de Jean, il est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous et son amour en nous est parfait. » Il est bon de se rappeler que cet amour n'est pas tant une question de sentiment, de sympathie ou d'émotion, mais que cet amour est plutôt la manière dont nous nous positionnons dans le monde envers l'autre, la manière comment nous le rencontrons et comment nous vivons donc très concrètement. Je vous invite à la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres. Notre Dieu, par ta parole, tu nous rappelles que nous sommes en toi et toi en nous, là où il y a l'amour. Ainsi, nous te prions que nous puissions être des relais de toi, là où nous vivons chaque jour. Que notre vie soit un reflet de ta volonté, qui crée des relations sincères, où nous sommes prêts à nous remettre en question, à renouer le dialogue, à pardonner, même sans mots. Que nous soyons relais de ta compassion. Puisse la souffrance des autres susciter en nous la compassion et l'empathie sans pour autant nous dévaster. Que nos esprits résistent aux facilités du jugement pour se laisser imprégner de bienveillance et de bonté. Donne-nous des regards attentifs quand nous rencontrons les autres, d'autant plus que les masques nous privent actuellement d'une partie des expressions du visage. Donne-nous des paroles qui savent dire les choses sans blesser. Nous avons tant besoin de chercher les mots justes et ne pas nous laisser emporter par la colère et les frustrations face aux difficultés des relations humaines. Donne-nous des mains qui savent donner généreusement, sans peur de manquer. Des mains qui savent agir et s'engager pour et avec l'autre, qu'il soit proche ou lointain. Oui, que notre monde, que notre personne soit renouvelée par ta force vive. Et nous voulons te prier en particulier pour tous ceux et celles que nous portons dans nos cœurs, qui ont besoin de notre soutien par la prière et l'action. Et ensemble, nous prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons vers la fin de ce culte, de ce moment mis à part dans la journée, dans la semaine aussi. Et je voudrais vous offrir quelques paroles d'un auteur anonyme du XIIIe siècle. Dieu dit : « Je ne suis pas loin de toi comme tu le penses. Je suis le Dieu tout proche. Dis-moi, qui a-t-il de plus près pour quelqu'un que son propre cœur ? Ceux qui me trouvent, c'est là, dans leur cœur qu'ils me trouvent. Voilà ma résidence. » Et qu'ainsi Dieu ouvre nos cœurs pour recevoir sa bénédiction. Que le chemin ne soit pas dur sous tes pieds, que le vent souffle légèrement sur tes épaules, que le soleil brille sur ton visage, que des pluies sereines tombent dans tes champs, et toute ta vie, que Dieu qui est père et mère te garde dans la paume de sa main, qu'il te procure la sérénité des montagnes, la fraîcheur des eaux, la légèreté de la brise, la luminosité du soleil, la douceur de la lune et la paix de l'infini. Que Dieu, l'Éternel, soit derrière toi pour te protéger, à ton côté pour t'accompagner, à l'intérieur de toi pour te consoler, devant toi pour te guider, et au-dessus de toi, pour te bénir. Amen. Et nous finissons ce temps de culte sur l'air joyeux du cantique « Vous bondirez de joie ». Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et à bientôt sur les ondes de Radio Alliance. Au revoir.
Vous bondirez de joie, vous marcherez. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront, battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira.
Voici maintenant une annonce. Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir du site internet de cette église, nimes-eglise-protestante-unie.fr, ou en envoyant un chèque à l'Église protestante unie de Nîmes, à la Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par la pasteur Iris Reuter, pasteur de la paroisse de la Fraternité de l'Église protestante unie de Nîmes. Restez à notre écoute pour la suite de nos programmes.